Bonjour Marie-Anne Vanier.
Bonjour.
Avec vos deux confrères de l'équipe de recherche sur les mystiques rhénans, Monique Gruber et Jean-Claude Lagarrigue, vous avez fait paraître un ouvrage épuisé d'Henri Suzeau, L'horloge de la sagesse, aux éditions Les Belles Lettres. Pourquoi vous a-t-il paru important de redonner vie à ce livre paru initialement entre 1333 et 1337 ?
Parce que c'est un grand classique de la spiritualité chrétienne qui a été autant lu que l'Imitation de Jésus-Christ. Et c'est le volet latin de l'œuvre d'Henri Suzeau, ce dominicain suisse du XIVe siècle. Et en fait, on a son œuvre allemande, mais son œuvre latine, on n'en disposait plus, sinon avec une traduction qui date de plus d'un siècle et qui était épuisée.
Comment vous y êtes-vous pris pour cette nouvelle traduction? Est-ce qu'il y a un travail de réactualisation du vocabulaire, des formes? Comment a fait en particulier votre collègue Jean-Claude Lagarrigue?
Oui, alors il y a tout un travail d'actualisation. Alors depuis la première édition, on a de la chance. Maintenant, on a le texte latin. Donc on est parti du texte même d'Henri Suzeau. On l'a traduit avec ses notions essentielles. Et en même temps, on a largement actualisé le vocabulaire pour le rendre beaucoup plus accessible.
La nouvelle édition de L'horloge de la sagesse est accompagnée par une riche iconographie. Pourquoi un tel choix?
Ben, en fait, les différentes éditions de l'Horloge de la Sagesse ont été illustrées. Le manuscrit où il y a le plus d'enluminures est l'Horloge de la Sagesse de Bruxelles, mais il y en a d'autres, celle de Vienne, celle de Paris, et on a voulu faire un choix parce que, en fait, Suzeau voyait le rapport entre le texte et l'image. Et chaque chapitre presque devait être médité et il y avait l'image correspondante et cette iconographie était parlante. Et on a trouvé que c'était utile de la reprendre. Mais ça a supposé, de la part de Monique Gruber, de faire vraiment toute une recherche pour avoir toute l'iconographie, pour sélectionner celle qui était la plus apte aujourd'hui. On aurait pu en mettre beaucoup plus, mais l'éditeur a quand même limité après le choix iconographique. Mais c'est la première fois qu'on a une traduction illustrée, parce qu'il y a une version allemande, une nouvelle traduction en allemand, mais uniquement avec 3-4 illustrations.
Les illustrations permettent de comprendre différemment ce qui est présenté dans le texte, ou c'était plutôt, et peut-être à l'époque, un moyen de mémorisation, de synthèse de l'écrit?
Oui, je pense, parce que certains ou certaines ne savaient pas lire. Donc, avec les images, lorsque le texte était lu par d'autres et expliqué, les images restaient et c'était un moyen de mémoriser le texte. En même temps, pour telle ou telle vision de la sagesse éternelle, il y a beaucoup d'éléments qui sont parlants, ou bien l'école de théologie, ou d'autres, ou même le mécanisme de l'horloge, parce que c'était à l'époque où on trouvait les horloges, alors il y a tout le mécanisme qui est représenté, ce qui est assez amusant, et qui fait penser aussi à l'horloge astronomique de Strasbourg, hein.
Marie-Anne Vanier, présentez-nous cet auteur, l'auteur de l'horloge de la sagesse, Henri Suzeau.
Henri Suzeau est un disciple de Maître Eckhart avec Jean Tauler. C'est un dominicain du XIVe siècle qui est un mystique, qui est bienheureux et qui a repris l'œuvre d'Eckhart. Alors, dans le livre de la sagesse éternelle, qui est très proche de l'horloge de la sagesse, aussi dans le petit livre de la vérité, il a défendu Eckhart, mais le problème, c'est que en tant que disciple, il y a eu la condamnation d'Eckhart, lui, il l'a défendu, et il a été relevé de sa fonction de lecteur, il a eu tout un ensemble de difficultés, et c'est le maître de l'ordre des dominicains qui lui a demandé d'écrire l'horloge de la sagesse, en quelque sorte pour reprendre les grandes orientations de l'enseignement d'Eckhart, et aussi pour montrer son intérêt pour les contemporains et pour le réhabiliter en un certain sens.
C'est une sorte de défense de l'œuvre d'Eckhart par son ordre dominicain.
Oui, alors qu'il y a une autre partie de l'ordre dominicain qui attaquait la même œuvre.
Dans l'œuvre d'Henri Suzeau, vous avez parlé d'une œuvre allemande qui était plus connue que son œuvre latine aujourd'hui. Comment situer l'horloge de la sagesse ?
L'œuvre allemande, c'est davantage sa vie, son autobiographie, les lettres, les sermons. Donc, une partie de l'œuvre qui est, je dirais, plus narrative. Tandis que là, c'est une partie de l'œuvre qui est spéculative. Et c'est un peu comme Eckhart, l'œuvre populaire en allemand et l'œuvre scientifique en latin.
Populaire, quand même, c'est vite dit, hein.
Oui, mais enfin, si on lit l'exemplaire de Suzeau où il raconte sa vie, c'est quand même très accessible. Là aussi, c'est très illustré.
Quel est le propos de ce traité écrit sous la forme d'un dialogue entre le disciple d'un côté et la sagesse divine de l'autre ?
En fait, on a le récit d'un certain nombre de visions de Suzeau et la sagesse éternelle qui lui enseigne un certain nombre de choses. Donc, ce dialogue, c'est l'enseignement de la part de la sagesse éternelle qui lui dit la vérité sur un certain nombre de réalités. Et en même temps, c'est une justification de la vie dominicaine avec le terme d'horloge. Et le cours de la sagesse éternelle, c'est-à-dire les différents offices de la journée, et à chaque office, comment il y a un dialogue avec la sagesse éternelle.
On peut dire que c'est un chemin d'union à Dieu ou c'est autre chose ?
Oui, c'est vraiment un chemin d'union à Dieu à travers les offices et puis aussi à travers des méditations personnelles qui interviennent sur tel ou tel point.
Dans la tradition chrétienne, et peut-être encore plus particulièrement ici chez Henri Suzeau, quel est le statut de la sagesse éternelle, de la sagesse divine relativement au Dieu Trinité ?
Alors, c'est une des personnes de la Trinité, et justement, la question, la sagesse, on la trouve dans l'Ancien Testament, et c'est la sagesse créatrice. Mais pour Suzeau, c'est surtout une figure du Fils. Donc, c'est le Christ qui prend les traits de la sagesse éternelle. Donc, c'est l'un de la Trinité qui vient vers lui. Et très souvent, il y a le Père et l'Esprit-Saint qui sont présents. Et certaines visions de la sagesse éternelle sont des visions trinitaires.
Pour conclure, Marie-Anne Vanier, pourquoi Henri Suzeau a-t-il donné ce titre, l'horloge de la sagesse, à son traité ?
En fait, pour toujours voir la sagesse dans la journée, et comment le temps lui-même, c'est un temps qui est marqué par l'éternité ou encore l'irruption de l'éternité dans le temps. Alors, il faut situer dans l'époque parce qu'il y avait la découverte des horloges. Pour nous, ça nous semble tout à fait commun et on n'y pense plus, mais l'horloge qui rythme le temps par son mécanisme. Et ce temps, pour Suzeau, c'est le temps qui nous mène vers Dieu, c'est le temps de Dieu. Et c'est un peu aussi en lien avec saint Augustin, le présent du présent, l'irruption de l'éternité dans le temps.
Avec une métaphore technologique, en fait, pour l'époque, de haute technologie.
Oui, et avec une description aussi du mécanisme de l'horloge. C'est une manière d'intéresser ses contemporains, parce que les horloges, tout le monde allait les voir, il n'y en avait pas beaucoup encore à cette époque-là. Et comment cette horloge qui va sonner rythme la vie du dominicain, mais rythme la vie de tout homme, et comment Dieu intervient dans la vie des hommes à travers cette horloge.